fête des rois mages. La légende dit Shylock, quatrième roi mage. Il était une fois une histoire devenue célèbre. L'histoire d'un petit enfant nommé Jésus qui naquit dans une étable à Bethléem. On raconte qu'au moment de sa naissance, une étoile s'alluma dans le ciel et que trois rois, Melchior, Gaspard et Balthazar, suivirent ce signe. Les rois mages se mirent en route, guidés par l'étoile. Ils arrivèrent ensemble, à dos de chameaux, les mains pleines des cadeaux les plus précieux pour l'enfant Jésus. Mais on raconte aussi que loin, très loin de Bethléem, il y avait un quatrième roi mage. Il s'appelait Ishilok et il avait la peau rouge, car c'était un vieil Indien d'Amérique. Bien que son pays soit encore inconnu de l'autre côté de la terre, Ishilok, lui aussi, lisait dans le ciel. Lui aussi vit l'étoile. Lui aussi sut qu'il fallait la suivre. Il fit donc ses paquets, emportant ce qu'il put trouver de plus précieux à offrir. Il choisit des plumes aux reflets irisés d'arc-en-ciel, de magnifiques cristaux verts appelés émeraudes, de belles et grosses pépites d'or, un bol d'eau de source d'une pureté rare, un miroir d'argent. À ses trésors, il ajouta, parce qu'il la trouvait belle, une simple branche garnie d'une étonnante pomme de pin jaune d'or.
Le vieil homme se mit en route vers l'Orient. Il partit, le cœur en fête, le pied léger, des chansons plein la tête, et commença à descendre la montagne. Dans sa joie, il ne remarqua pas le puma qui le suivait discrètement. Souple et silencieux, l'animal guettait le moindre de ses gestes. Quand Ishilok fut loin des dernières habitations, le puma bondit sur lui, toute griffe dehors. Sous le choc, l'homme poussa un cri et tomba à terre.
« Le félin rugit. Ne bouge pas ou je te tue immédiatement. Tu es vraiment maigre, mais mes enfants ont faim et ma compagne ne peut pas les nourrir. »
Pourquoi ta compagne ne pourrait-elle pas les nourrir ?
Hélas, elle ne peut plus chasser, car elle ne voit plus. Des chasseurs ont tenté de la tuer et ont blessé ses yeux. Voici 3 jours maintenant. C'est pourquoi je n'ai pas d'autre choix. Tu serviras de repas à nos petits.
Et là, doucement, je n'ai rien fait, moi. Et puis, quand vous m'aurez mangé, que vous restera-t-il ? Comment nourriras-tu tes petits ?
Le puma ne sut que répondre. Ishilok se releva majestueusement.
« Je suis roi mage, et qui dit mage dit un peu magicien. Conduis-moi immédiatement près de ta compagne, je verrai ce que je peux faire. »
Le félin guida Ishilok jusqu'à sa tanière. Là, 3 petits pumas jouaient autour de leur mère. Ishilok se pencha sur elle et examina délicatement ses yeux injectés de sang. La compagne du puma se laissa faire.
Je crois que j'ai ce qu'il faut pour te guérir. Mais le temps que je te soigne, l'enfant que je dois aller voir aura grandi. Allez, va, je ne vais pas te laisser comme ça. Il fouilla dans son sac, soupira encore une fois, et prit les 2 émeraudes dont il comptait faire présent à l'enfant. Je suis mage, fais-moi confiance. Et comme par magie, il remplaça les 2 yeux blessés par les 2 pierres précieuses. Je suis mage, regarde-moi.
La compagne du puma le regarda de ses 2 prunelles étonnamment vertes. Elle voyait parfaitement à nouveau. Le mage lui avait fait le plus beau des cadeaux.
Satisfait, Ishilok reprit sa marche vers l'Orient. Sa route le conduisit à travers la forêt vierge. La nuit venue, Ishilok s'arrêta pour faire un feu. Un perroquet se percha sur une branche et se mit à chanter. « Tu chantes bien ? Pourquoi es-tu aussi triste ?» demanda le mage en levant la tête.
« Regarde-moi ! Ne vois-tu pas comme je suis laid et déplumé ? Comment oserais-je me montrer, moi qui étais si beau autrefois ?»«
Que t'est-il arrivé ?»«
J'étais beau et si fier de mon plumage de toutes les couleurs que je suis allé chanter près du village. » Les enfants m'ont attrapé pour m'arracher les plumes. J'ai réussi à leur échapper, mais me voilà maintenant presque tout nu.
Je crois que j'ai ce qu'il te faut, mais le temps que je te soigne, l'enfant que je dois aller voir aura grandi. Allez, va, je ne vais pas te laisser comme ça. » Il fouilla dans son sac, soupira encore une fois et prit les plumes aux reflets irisés d'arc-en-ciel dont il comptait faire présent à l'enfant. « Je suis mage, fais-moi confiance. » Et comme par magie, il remplaça les plumes manquantes par les magnifiques plumes qu'il avait sorties de son sac. « Je suis mage, envole-toi !»
Le perroquet voleta autour d'Ichiloc en chantant gaiement. Il remercia l'Indien du merveilleux cadeau qu'il venait de lui faire.
Satisfait, Ichiloc reprit sa route vers l'Orient. Le vieil homme arriva au bord de l'océan. Là, il rencontra un marin qui accepta de l'emmener loin, vers l'Orient, là où se trouvait l'enfant à qui il voulait donner ses cadeaux. Ichiloc embarqua donc sur le bateau sans remarquer qu'un homme s'était glissé furtivement sous sa couchette. Quelques heures plus tard, Ichiloc entendit des gémissements et il découvrit un homme qui tremblait de peur.
Qui es-tu et que fais-tu là ? Demanda calmement le mage.
Je me cache, car si on me trouve, on me tuera. Ne dites pas que je suis là, je vous en prie, supplia l'homme avant de s'évanouir.
Ichiloc hocha tristement la tête. Le pauvre n'a sans doute rien bu depuis le départ. Je crois que j'ai ce qu'il lui faut. Mais le temps que je le soigne, l'enfant que je dois aller voir aura grandi. Allez, va, je ne vais pas le laisser comme ça. Il fouilla dans son sac, soupira encore une fois, et en sortit le bol d'eau de source d'une pureté rare dont il comptait faire présent à l'enfant. « Je suis mage, fais-moi confiance. »
Quelques gouttes de l'eau merveilleuse coulèrent dans la gorge de l'homme.
« Je suis mage, réveille-toi. »
Et comme par magie, l'homme revint à lui et remercia Ichiloc pour sa grande générosité.
Lorsqu'ils accostèrent, Ichiloc, satisfait, reprit sa route vers l'Orient. Il traversa des villes, des villages, des déserts, des montagnes. Dans un village, il remarqua une vieille femme qui pleurait sur le pas de sa porte.
« Qu'as-tu, brave femme, à pleurer ainsi ?»«
Hélas, je suis si vieille, je n'ose plus me regarder tant je suis laide. »«
Ton esprit est calme et honnête. » Tu es bonne et généreuse. Là est la vraie beauté.
Comment être sûr de ce que tu me dis ? Cette beauté-là ne se voit pas.
Ichiloc sourit. Je crois que j'ai ce qu'il lui faut. Mais le temps que je m'occupe d'elle, l'enfant que je dois aller voir aura grandi. Allez, va. Je ne vais pas te laisser comme ça. Il fouilla dans son sac, soupira encore une fois et en sortit le miroir d'argent dont il comptait faire présent à l'enfant. « Je suis mage, fais-moi confiance. » Et il lui tendit le miroir d'argent. « Vois la beauté de ton cœur. »
La femme prit le miroir et, comme par magie, se vit belle. Elle remercia Ichiloc chaleureusement.
Au même instant, des cris se firent entendre. C'était une fillette traînée par deux hommes et qui se débattait. « Laissez-moi, laissez-moi »
« Qu'a-t-elle fait ? » demanda Ichiloc aux deux hommes.
« La gredine nous a dérobé du pain. Voilà ce qu'elle a fait. En prison, la voleuse !»
Ichiloc sourit paisiblement. La pauvre petite avait sans doute faim. « Je crois que j'ai ce qu'il faut, mais le temps que je m'occupe d'elle, l'enfant que je dois aller voir aura grandi. Allez, va, je ne vais pas la laisser comme ça. » Il fouilla dans son sac, soupira encore une fois, et prit les deux belles et grosses pépites d'or dont il comptait faire présent à l'enfant. « Je suis mage. Voici de quoi rembourser ce que la fillette a mangé. »
Les hommes repartirent, satisfaits d'être largement payés de leur pain. Et la petite fut libre. Ichiloc lui dit
« Je suis mage. Conduis-moi à l'étable où l'enfant attend mes cadeaux. Hélas, il ne me reste plus à offrir qu'une simple branche garnie d'une étonnante pomme de pin jaune d'or. Mais c'est pour lui faire au moins ce présent que je suis venu. »
« Je connais l'enfant dont tu parles. Cet enfant a grandi. » Et sa famille et lui sont partis depuis des années. Tu as fait un grand voyage. Ta barbe est longue et blanche maintenant.
Mais tu n'auras pas fait tout ce chemin pour rien. Vois le nombre de merveilleux cadeaux que tu as offerts. Vois tous les heureux que tu as faits. Continue, Ishilok, mais continue. Va donner ce que tu as à ceux qui en ont besoin. Et qui sait, en donnant des cadeaux à tous les enfants de la terre, peut-être retrouveras-tu l'enfant que tu cherches.
Riche de cette sagesse, Ishilok repartit pour son pays. Là-bas, il vit que les gens avaient faim. Il soupira et dit en souriant, « Je crois que j'ai ce qu'il faut, je ne peux pas les laisser comme ça. » Il fouilla dans son sac, soupira encore une fois, et sortit la branche garnie d'une étonnante pomme de pain jaune d'or, dont il comptait faire présent à l'enfant. « Je suis mage, voici de quoi nourrir ceux qui ont faim. » Il planta l'étrange pomme de pain jaune d'or, à la forme absolument parfaite, et depuis, le maïs pousse chaque année, donnant aux hommes ses épis dorés et les protégeant de la faim.
Mais le vieil homme à la barbe blanche ne s'arrêta pas là. Tous les ans, à Noël, quand tout le monde fête la naissance de cet enfant et le voyage des rois mages, Ishilok, lui, le quatrième roi mage, continue discrètement à donner des cadeaux à ceux qui en ont besoin.
À 7h30, chaque matin, Denis Carton montait sur sa bicyclette et prenait la route de la Suisse. Travailleur résidant en France, à quelques kilomètres de la frontière, il occupait un emploi dans une chocolaterie située en territoire helvétique peu après le poste de douane. Titulaire d'un diplôme d'emballeur de tablettes, option papier d'aluminium, il n'avait pas trouvé de travail en Savoie dans cette spécialité. D'où son expatriation quotidienne, qui ne l'empêchait pas de se considérer comme un homme parfaitement heureux. En complément d'un salaire déjà très confortable, il recevait en effet chaque semaine un lot de 12 tablettes de chocolat à croquer non emballées. De quoi faire plaisir à toute sa famille. Chaque vendredi, alors qu'il gravissait les lacets de l'étroite route forestière conduisant au poste frontière de Gélébois, Denis Carton était doublé par un automobiliste un peu particulier. Ce n'était pas sa puissante voiture de sport rouge-vif qui attirait l'attention, car il la conduisait fort prudemment. Par contre, on remarquait à coup sûr son étrange et inhabituel chargement. Une énorme malle de voyage, solidement sanglée sur deux barres de toit. Le cycliste et l'automobiliste auraient pu ne jamais faire connaissance. Mais c'est un vilain clou qui leur permit un jour de se rencontrer. Très obligeant, le conducteur de la voiture s'arrêta sans hésiter lorsqu'il vit Denis Carton debout près de la bicyclette aux pneus crevés, tendant le pouce en direction des rares véhicules empruntant la petite route à cette heure matinale.
Alors, monsieur Carton, on a eu un problème ce matin ? Fit un peu plus tard le douanier en voyant arriver le curieux équipage. Heureusement pour vous, c'est le jour où monsieur Posinet part en week-end. C'est gentil à lui de vous avoir tiré d'affaire. Et vous, monsieur Posinet, c'est comme d'habitude ? Rien à déclarer ?
Rien à déclarer.
Je ne vous fais pas descendre votre mal, vu qu'il faudrait aussi enlever le vélo fixé dessus et tout remonter ensuite sur le toit. Elle contient la même chose que d'habitude, je présume.
Ni plus ni moins, confirma l'automobiliste en souriant.
Alors, ça ira comme ça. Bon week-end à vous, monsieur Posinet. Et à vendredi prochain. À ce soir dans l'autre sens, monsieur Carton.
Ce jour-là, Denis Carton n'en a pris pas davantage. Le trajet avait été trop bref pour faciliter les confidences. Très serviable, M. Posinet offrit cependant aux cyclistes de le véhiculer tous les vendredis matins. Leurs horaires étant invariables, il était plus rentable pour eux de pratiquer le covoiturage. L'habitude fut donc prise de jucher chaque fois la bicyclette de M. Carton sur le toit du puissant véhicule rouge par-dessus la malle. De vendredi en vendredi, l'emballeur de tablettes en découvrit un peu plus. Albert Posinet exerçait la profession rare et lucrative d'illusionniste. La malle était son outil de travail dont il ne se séparait jamais. Avec elle, il avait parcouru pratiquement tous les pays du monde sous différents noms d'artistes, brillant sur les scènes les plus prestigieuses, faisant vibrer des foules de spectateurs incrédules. Grâce à elle, il avait fait fortune. Réalisé sur mesure par un artisan spécialisé à partir de consignes très précises, la malle s'ouvrait sur trois côtés ainsi qu'aux deux extrémités, permettant d'innombrables possibilités d'illusion selon la face qu'on utilisait. Avec elle, rien ne semblait impossible à Albert Posinet, alias Magimal. En vol de flamants roses, apparition d'animaux sauvages, disparition de spectateurs volontaires et surtout, attraction avec armes blanches. Albert Posinet ne se séparait jamais de sa malle, l'emmenant même avec lui lorsqu'il partait en week-end. Pour répéter ses tours, mais aussi par peur qu'on la lui vole ou qu'on découvre en son absence quelques-uns de ses trucs. Lors de ses premiers passages, le douanier de Gélébois mit beaucoup de temps à inspecter l'objet sous tous les angles et dans tous les recoins, aussi méticuleusement que possible. Au fil des semaines, il se contenta d'un examen plus sommaire. Depuis que M. Carton accompagnait les illusionnistes, les vérifications étaient devenues plus rares. Conscience professionnelle oblige, il effectuait parfois encore une fouille quasi complète, mais n'eut jamais l'occasion de prendre M. Posinet en situation irrégulière. De mois en mois, les trois hommes sympathisèrent tant et si bien que l'illusionniste invita le douanier et le cycliste chez lui. Il vivait seul, dans un château meublé avec goût et fort bien entretenu. Denis Carton voulut le photographier avec sa malle, demande à laquelle il se prêta bien volontiers. La photo fut prise dans le jardin. Le coude appuyé sur l'objet, dans une attitude décontractée, Albert Posinet regarda l'objectif avec la tranquille assurance de l'homme qui a réussi une carrière sans faute. Ou presque. Un certain premier vendredi de septembre, alors que Denis Carton reprenait son travail à l'issue d'un mois de congé, il fut surpris de ne pas rencontrer son ami à leur rendez-vous en bord de route. 4 semaines plus tôt, pendant que le douanier était en vacances, les illusionnistes avaient eu affaire à un douanier remplaçant. Tout frais sorti de l'école supérieure des douaniers suisses, celui-ci eut l'idée de s'intéresser à la voiture plutôt qu'à la malle. Le bolide rouge à l'écusson du cheval cabré était une voiture volée. Depuis plus de 20 ans, l'individu travaillait pour un vaste réseau européen trafiquant les bolides de luxe. Par cette obscure poste-frontière, il en passait une chaque vendredi en Suisse, d'où elle repartait par des voies compliquées vers une clientèle fortunée. Albert Posinet n'était pas plus illusionniste que vous et moi. Son seul tour, Sa seule illusion avait été sa malle d'illusionniste emplie des histoires qu'il avait inventées pour tromper l'attention d'un douanier un peu trop crédule.